Europe 1.
Et si on parlait sport ?
Jacques Vendroux.
Comment ça va, Alexis Corbière ?
Ça va bien, heureux d'être avec vous, cher Jacques. Voilà, c'est l'été et le moment
et on
du
va
repos.
Parler sport.
Bah alors oui, voilà. Puis ça, vous savez, dans l'imaginaire beaucoup d'entre nous, les grands événements sportifs, l'été, ça correspond comme ça à des moments agréables. Et puis voilà, bavarder avec vous sur ces sujets-là. Un bon moment, j'espère. Enfin, je dis ça, on va voir au bout d'une heure hein, si on est toujours d'accord sur le fait que ça se passe bien.
Alors, merci en tous les cas d'être avec nous en ce samedi. Vous
merci
êtes député de la France, insoumise, de Seine-Saint-Denis. Vous êtes né à Béziers, une terre de rugby, donc on va forcément en parler. Vous avez fait une partie de vos études à Montpellier, à Paris. Et je crois savoir que vous aimez profondément le sport et que vous faites partie de ces leaders politiques que nous recevons dans notre émission. Et si on parlait de sport, je suis sûr que ça va être très passionnant. Très intéressant. En tous les cas, merci d'être avec nous en ce samedi.
Sur Europe 1, Jacques Vendroux vous parle sport.
Alexis Corbière, le mot sport, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? La vision du sport, l'importance du sport, vos idoles, vos souvenirs, vos déceptions, vos joies. En tous les cas, il y a plein de choses à dire et surtout l'une des questions les plus importantes à mes yeux. Et la dernière thématique, vos idoles, vos souvenirs, vos réactions. Et vous avez peut-être aussi rêvé d'être un sportif de haut niveau, on va y revenir. Donc, première thématique, elle est importante, le mot sport, Alexis Corbière, qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Ça me renvoie beaucoup à l'enfance, faire du sport, c'était évidemment, ça correspondait, ou après l'école, des moments de détente, retrouver des copains. Avant que j'ai en tête aussi, c'est une dimension de la réponse, d'avoir des politiques publiques qui permettent de faire du sport. Mais d'abord, c'est le plaisir. Alors, on va en parler. Moi, je suis originaire de Béziers, terre de rugby, mais un des grands sports que j'ai pratiqué, on va y revenir, c'est le judo, en fait. J'en ai peu parlé, mais qui a été le sport où j'ai consacré tout mon temps, je sortais d'école, j'allais au club. Mes copains, c'était les copains du dojo, on appelait ça, de mon club. Et les week-ends, il y avait les compétitions. Et ma mère disait, fais tes devoirs avant d'aller au sport. À quelle heure tu rentres du sport, etc. Donc ce mot revenait comme étant le complément de l'école. Et en particulier quand j'étais au collège et au lycée, où je pense même que j'ai redoublé une de mes classes en seconde. Parce que j'allais plus pratiquer du sport ou retrouver mes petits camarades que vraiment aller au lycée.
Bon. Donc si je comprends bien, le mot sport fait partie de l'ADN de la famille Corbière, pour être clair.
Oui, enfin de moi en particulier. Mes parents n'étaient pas sportifs en tant que tels, mais moi j'y ai vu.
Mais ils ont tout fait pour vous permettre de faire du sport.
Puis disons-le clairement, ça me permettait de sortir de la maison. Quoi. C'était l'extérieur, c'était rencontrer d'autres gens. C'est une ambiance plutôt virile, hein, de gars, mais je passais beaucoup de temps et c'était le prétexte. Mais je ne mentais pas à ma mère, hein, de dire après le lycée, j'irai au sport. Comme ça, c'est à l'âge 15-16 ans où on a besoin, une fois de plus, de sortir du milieu familial. Pour moi, c'est un mot libérateur. Voilà, je comprenais, c'est le mot qui permet, c'est le mot d'évasion. C'est une clé un peu qui nous fait sortir de l'enfance, vraiment. Et c'est un mot qui... Voilà, qui n'est pas sans émotion. Mais après, c'est autre chose, le sport. Hein. Mais moi, je dis, je vois encore ma mère.
Le point de départ, c'est ça.
Voilà.
Et le sport veut dire quoi pour vous ? C'est-à-dire, il veut dire plein de choses. Solidarité, la culture du vestiaire, l'éducation. Il y a quelques messages à faire passer importants.
Bon, il y a le corps. Il y a le corps aussi.
Oui.
C'est l'idée d'une activité qui entretient le corps. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans une activité évidemment cérébrale, intellectuelle, mais les deux sont pas séparés. Le sport, c'est la machine. On prend soin de ça, on l'entretient, on la brutalise aussi parfois. Donc, c'est quelque chose qui est important. D'abord, hein, et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je vois bien que je consacre pas assez de temps à cela. Mais c'est important de veiller à ce que, une fois de plus, l'organisme, les muscles soient entretenus. C'est vraiment une activité qui est importante. Et après, évidemment, c'est tout le reste que vous venez d'évoquer. Le sport, c'est la solidarité, c'est la victoire, c'est la défaite. Apprendre à perdre, ça fait du bien pour tout le monde. Je pense que le sport, même sans trop haute dose de compétition, il y a ça, quoi. Essayer de se fixer un objectif, se frotter à quelqu'un que l'on estime plus fort que soi pour une partie, quelle qu'elle soit, ou que ce soit un sport de combat, essayer de le gagner. Et donc, souvent, pas y arriver quand on est jeune. Mais c'est une école. Il y a une école humaine. humaniste presque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous devez aborder ça avec modestie, parce qu'il y a toujours plus fort que vous quand vous débutez. Et c'est aussi un retour sur soi, son propre corps, pour essayer de faire mieux. Donc, c'est pas qu'un truc nombriliste, c'est un truc qui se frotte à l'autre et qui amène à s'élever dans un espace collectif pour une réussite individuelle.
Est-ce qu'il y a un rapport entre le sport et la politique? Parce que vous êtes, il y a un point commun, vous êtes des compétiteurs.
Sans
quelque
doute.
Quelque part.
Sans doute, il y a ça, il y a ça, il y a la confrontation, il y a la compétition, il y a l'amélioration individuelle, il y a évidemment le collectif. Nous, ce n'est pas des vestiaires, mais c'est des ambiances de victoire électorale, ça ressemble un peu. Hein, je veux dire, quand il y a un but est marqué, que tout le monde se met à s'exalter, c'est un peu comme quand les résultats tombent. J'ai une image, peut-être que je dérive un peu, mais vous vous souvenez, Mélenchon avait fait les hologrammes, Jean-Luc avait eu cette idée géniale lors d'une campagne présidentielle. Et je vois encore cette salle, parce que j'animais, moi, à Aubervilliers, la salle où l'hologramme devait apparaître et Jean-Luc Mélenchon était à Lyon. Et quand l'image est apparue, toute la salle s'est levée et ça me rappelait vraiment un stade dans une exaltation de hurlement. Donc, il y a des points au commun comme ça, d'exaltation collective, de victoire ou de défaite. Perdre électoralement, c'est assez proche d'une défaite sportive.
Alors, on parle de la politique, on parle du sport. Il y a aussi un autre point commun, vous l'avez dit, Alexis Corbière. Il y a ce qu'on appelle l'équipe, le capitaine. Un leader pour vous permettre de l'emporter ou de perdre. Là aussi, c'est un point commun avec le sport.
Indiscutablement. De toute façon, toute action collective, on le sait bien, il y a à la fois quelqu'un qui entraîne. Alors, il ne faut pas que le leader écrase trop le collectif, mais il faut qu'il existe. Il donne le ton, souvent, la personnalité. Et puis, il y a des postes aussi. Oui, et puis, il y a des fois, il y a des remplaçants. C'est-à-dire quand vous pensez être le joueur titulaire et puis d'autres prennent la place. Non, il y a plein, évidemment, de comparaisons comme ça. Même les sports individuels se pratiquent collectivement. Et la politique aussi ne peut se pratiquer que collectivement. Les aventures individuelles en politique, en général, ça ne dure pas très longtemps. C'est bon, des gens, la politique qu'on aime, dont on se souvient, c'est des grands courants de pensée, des grands collectifs qui s'incarnent après dans des grands politiques qui peuvent être comparés à des grands champions, des personnalités hors du commun. Tu ne sais pas pour quelle raison cette personne, sportivement, elle fait le geste mieux que les autres, elle l'a mieux compris, et idem politiquement, il y a des gens, ils accumulent une expérience et ils captent ton truc, et ils incarnent quelque chose. Évidemment, là, il y a des effets miroirs un peu entre les deux.
Vous parlez de la victoire, de la défaite, il y a évidemment ce point commun entre le sport et la politique, mais c'est aussi un thème important, c'est de vivre ensemble.
Indiscutable.
Le sportif vit avec des sportifs, le politique vit avec des politiques, ce qui est un peu normal quelque part, même si vous avez une vie privée, même si vous avez d'autres activités. Il y a aussi ce côté rassembleur dans le sport où on peut faire un parallèle avec la politique.
Oui,
parce que vous allez...
Ce que vous abordez, ça peut être une passion, en fait. C'est quelque chose qui vous prend toute votre vie. Vous ne pensez plus qu'à ça, vous dormez là-dessus.
C'est le point commun qu'il y a avec le sport. Voilà. Le sport, c'est une passion. La politique, c'est une passion aussi.
C'est quelque chose, au bout d'un moment, où tout votre univers est organisé autour de ça. Vous ne pensez plus qu'à ça. Je confesse d'ailleurs que moi, je ne suis plus un érudit du sport parce que finalement, je n'ai plus le temps. Je suis admiratif. Moi, je sais qu'il y a des politiques qui ont le temps de lire l'équipe et tout. Moi, j'avoue que par rapport à ce que je faisais à une époque, j'ai un peu lâché parce que je suis dévoré par d'autres choses. Mais quand j'étais vraiment très accro de certains sports, je me tenais au courant de tout. Et parce qu'il y a ce côté passion dévorant et qui peut être un peu casse-pied pour ceux avec qui on vit s'ils ne partagent pas la passion. Et il faut aussi que des gens vous accompagnent. Moi, quand je pense au sport, et je le vois encore aujourd'hui, le maillage qu'il faut, que ce soit de bénévoles, responsables associatifs, de parents qui accompagnent les gamins, tout ça, parce que c'est une passion qu'on peut partager. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très dévorant et qui peut être à un moment rentrer aussi peut-être en confrontation avec ceux avec qui on vit. Ou alors, évidemment, ça amène à ce que... Alors, on vit et on va essayer de trouver, pourquoi pas, des compagnons, des compagnes aussi qui partagent ça. Donc, ça peut être enfermant, encore que... on parle d'activité généralement publique, on se donne à voir, on participe à des compétitions, il y a un public, c'est quand même quelque chose qui ouvre, qui émancipe, hein, pas qui enferme.
Vous faites partie du domaine public comme un sportif, quoi qu'il arrive. Vous signez des autographes comme un sportif, vous êtes exposé comme un sportif. Il y a plein de points communs entre le sport de haut niveau et la politique de haut niveau. Je suis très précis là-dessus.
Oui,
vous êtes un champion, quelque part. Dans votre rôle de député de la République, de leader, entre guillemets, vous êtes leader, vous le savez. Il y a la même chose dans le sport. Ça existe. Il y a des points communs énormes.
Oui, oui. Non, mais il y a des points communs comme toute personne aujourd'hui qui est médiatisée, etc. Après, attention à ce que... Mais c'est un autre sujet.
Je serais tenté de vous dire que vous êtes un sportif de haut niveau, à votre manière. Vous êtes obligé de vous préparer. comme je le dis à nos invités tous les samedis, vous êtes obligé de vous préparer avant une grande émission de télévision, une grande émission de radio, un grand meeting. Vous êtes obligé de vous préparer comme un sportif. Alors, c'est obligatoire. Vous ne le faites pas, vous savez aussi bien que moi, vous êtes dans le mur.
Vous me flattez parce que je ne sais pas si je suis moi dans cette catégorie, mais ce qui est sûr, c'est qu'un grand politique est un sportif de haut niveau.
Et ça, c'est ce
sûr.
Que je suis en train de vous
ça,
dire.
Ça, je veux dire, c'est un engagement total. Qui va même jusqu'à l'alimentation, l'hygiène de vie que vous avez.
Donc vous faites attention.
Non, mais ça, c'est indiscutablement. Si vous voulez être à haut niveau, il faut faire attention. Et une erreur, mais une fois, moi, pour avoir vécu des campagnes, je pense à Jean-Luc Mélenchon, mais lui notamment, est un type qui est un athlète de haut niveau.
Programmé pour être un leader.
Programmé, je ne sais pas, mais qui s'est beaucoup entraîné. Ça, c'est sûr, pour être à ce niveau-là. Et je parle de lui parce que j'ai été à ses côtés, mais c'est le cas, j'imagine, de tous. On ne peut pas, il n'y a pas d'amateurisme à ce niveau-là. Et l'amateurisme, du moins, fait que si vous faites de la politique en amateur, comme le sport, si vous venez vous frotter à des professionnels, vous allez être derrière indiscutablement. Donc ça, c'est clair qu'il y a ce côté. Après, pour moi, le sportif, c'est un artiste. C'est-à-dire que... alors que la politique, ça peut être un peu différent, c'est plus collectif, mais le grand sportif, il y a une part de mystère, parce que c'est pas que l'entraînement, je crois, qui fait le grand sportif. Il y a l'entraînement, et puis il y a cette part de...
La folie.
Oui, pour quelle raison
un
quelqu'un...
Côté espiègle, un côté provocateur.
Il peut y avoir un côté, vulgairement on appelle ça parfois le génie, mais pour quelle raison lui il comprend mieux le geste, pourquoi il le réalise mieux, pourquoi il arrive à se positionner. Alors parfois ça peut être aussi des aptitudes physiques, mais pas seulement.
Ça n'existe pas en politique, ça? Un peu quand même.
Moi...
L'idée de génie, l'anticipation sur un débat, ça existe aussi quelque part. Quelque chose que
c'est
vous...
souvent plus le fruit d'un travail énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que le grand sportif, il a à la fois énormément de travail, mais il a quelque chose qui fait qu'il a mieux compris, mais ça peut être quasiment même ne mieux le comprendre de manière quasi inconsciente, que pour réaliser telle ou telle performance sportive, il le fait mieux, il est plus puissant, il a un geste qui est légèrement différent et qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel.
Merci Alexis Corbière d'être avec nous en ce samedi. Vous êtes député de la France Insoumise. Vous êtes aussi passionné par le sport que par la politique. Moi, je vous connais depuis longtemps, je vous entends, je vous vois à la télévision, je vous écoute à la radio. Vous parlez de sport de la même manière dont vous défendez vos idées et c'est tout à votre honneur. Alors justement, il y a une question que je voulais vous poser. Quelle est la vision que vous avez sur le sport? Je vais vous mettre sur la route. Est-ce que le sport peut régler des problèmes à l'école, dans les lycées, dans les universités, dans les banlieues? Est-ce que le mot sport peut résoudre tous les problèmes que nous avons actuellement, la violence, l'homophobie, etc.? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut éventuellement compter et sur lequel on ne s'est pas encore complètement, appuyé?
Il peut y contribuer. Alors moi, je ne suis pas non plus, je trouve que parfois, on fait supporter au sport et au mouvement sportif des tas de sujets auxquels il doit les régler, notamment ce que vous évoquez, pour lutter contre le racisme, l'homophobie, le mouvement sportif doit marcher devant, alors qu'il y a d'autres politiques publiques dans d'autres secteurs qui sont beaucoup moins efficaces. Mais observons, par exemple, encore aujourd'hui, la pratique du sport pour les filles, la pratique du sport pour les garçons, il y a des inégalités très significatives. Je crois que 50% des femmes entre 16 et 24 ans ont une pratique sportive, c'est-à-dire que 50% n'en ont pas, et c'est 63% des hommes qui ont une pratique sportive. Il y a quand même encore aujourd'hui des choses qui sont très marquées par des différences, même si ça progresse, même si le sport féminin progresse. Après vous, qui êtes journaliste et un homme de médias, il y a une médiatisation du sport féminin, du sport masculin, qui est différente. Et surtout, aujourd'hui, le sport et le média est en train de tellement devenir un couple puissant. Parce que ne nous cachons pas, le sport est aussi un vecteur, il y a de l'argent derrière, il y a des enjeux économiques très importants. C'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Le sport est un outil idéologique qui peut être très puissant, et d'ailleurs utilisé souvent dans toutes les sociétés, on le sait très bien dans les états totalitaires. C'est-à-dire qu'il peut, à travers la victoire, être une prolongation d'une politique nationale, et voire même nationaliste. L'équipe qui gagne, c'est le pays qui gagne, c'est nous, etc. Donc il y a des politiques qui sont là-dessus. La fabrication d'idoles, c'est une tension personnelle. C'est-à-dire qu'on aime les grands sportifs, et en même temps, je vois bien la fabrication des idoles aujourd'hui, l'argent qu'il y a derrière, peut potentiellement contenir certains dangers idéologiques. Parce que faire du sport, c'est pas que être une idole, c'est bien d'avoir des modèles. Mais attention, le sport de masse, c'est important qu'il y ait des politiques publiques qui permettent pas seulement des fabrications de champions, mais que tout le monde, les gros, les mecs, les filles, les garçons, qu'importe, on pratique du sport parce que c'est du bonheur partagé, parce que c'est sain et c'est bien de le faire ensemble. Et attention à ne pas être seulement dans la recherche, une fois de plus, du grand champion. Et puis, attention aussi à ce que ces sommes, même si c'est des artistes exceptionnels, mais tout cet argent dans le sport ne soit pas quelque chose qui... je veux dire, voilà, quand on est un gamin et qu'on voit son père qui va bosser pour un salaire entre 1500 et 2000 euros par mois, et je veux dire qu'on voit que le sport brasse autant d'argent, ça peut amener des regards de, d'une forme de mépris social. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui faut faire attention. Je veux dire, le père qui part bosser tous les matins, c'est pas démago ce que je veux dire, est en vérité aussi important que le grand sportif. Et je voudrais pas qu'il y ait des mondes tellement différents. Et puis après, bon, c'est un peu facile de dire ça, mais réunir des smicards qui vont payer très cher pour se payer le fait de voir des milliardaires qui jouent, ça doit quand même nous interroger sur des inversions de choses. Alors, une fois que j'ai dit ça, je sais qu'un grand sportif, il remplit les stades. C'est vrai qu'il doit avoir une indépendance matérielle, un confort d'une carrière souvent qui s'arrête autour de la trentaine et qu'après, il y a une autre vie, etc. Mais là, on est passé aujourd'hui, en 2023, en quelque chose qui... Attention, je veux dire, entre Platini et Kylian Mbappé, les salaires ne sont plus les mêmes. Et Platini était un génie du foot, quoi. Je veux dire, il ne doit rien à ça. Donc, c'est pas... Quand je dis ça, je ne suis pas en train d'arrêter le fait qu'on puisse encore se régaler à voir, du sport. J'évoquais le foot ou autre. Mais c'est une puissance d'argent. Et aussi, il y a une dimension géopolitique dans le sport. Vous le savez, moi, je suis monté au créneau contre... Et c'est un désaccord avec vous sur la Coupe du Monde au Qatar. De quelle manière cette monarchie réactionnaire, conservatrice, utilise le sport pour essayer de faire une géopolitique et devenir un acteur important, non seulement dans cette région, avec des conditions de vie salariale qui, selon moi, sont indignes. Je veux dire, le mouvement sportif ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Attention, parce que j'ai en tête la déclaration d'un des grands dirigeants du sport, j'oublie son nom, mais qu'importe, l'idée, il disait, pour organiser des grands événements sportifs, que ce soit une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, il vaut mieux qu'il y ait un État autoritaire parce que c'est plus simple.
Je vais vous dire qui c'est. Vas-y. Je vais vous dire qui c'est. C'est Jérôme Balk, voilà. L'ancien secrétaire général de la FIFA.
Voilà, merci. L'ancien secrétaire général de la FIFA.
Vous avez raison.
Donc c'est un sujet.
Il l'a dit.
C'est un sujet.
Mais c'est vrai, c'est vrai. À la décharge de Jérôme Balk, je suis persuadé que vous serez d'accord avec moi, dans certains pays dits totalitaires, l'organisation en règle générale a été parfaite, même si ce n'est pas une raison suffisante, pendant toute la durée de la Coupe du Monde.
Jacques, vous avez raison.
Mais j'entends ce que vous dites.
Que personne ne soit choqué au micro, mais en 1936, quand il y a les Jeux Olympiques à Berlin, il y a un grand débat qui a lieu.
Mais c'est encore pire.
Non, mais d'accord. Et les Jeux Olympiques sont un succès d'organisation.
Moi, je parle
pas des moindres. Léo Lagrange, le grand Léo Lagrange, qui est secrétaire d'État au temps libre, etc., et qui est un de ceux qui permet aujourd'hui... d'une politique de loisirs et de sport aussi, était défavorable à la participation des Jeux Olympiques à Berlin. Pierre Mendès-France aussi. Enfin, je veux dire, il y avait attention à ce que nous ne soyons pas aveuglés par le caractère spectaculaire de la réussite de certains événements, mais qui ont en toile de fond la souffrance de travailleurs. On va peut-être en parler. J'oublie pas aussi que pour les Jeux Olympiques, là, en Seine-Saint-Denis, dans mon département, attention à des contrôles
sur
des chantiers.
On va y revenir. C'est la quatrième thématique.
Il y a des sans-papiers, des conditions de travail dégueulasses, etc. Enfin, voilà. Donc, le sport et la politique... Ça marche ensemble, mais ça marche aussi pas pour le meilleur. C'est-à-dire c'est un outil de domination idéologique aussi. C'est utilisé en 78 lors de la Coupe du Monde de foot. Videla, le dictateur argentin, va utiliser l'équipe nationale pour essayer de faire un grand moment d'exaltation nationaliste et faisant oublier que, non loin du stade où la Coupe du Monde était remise à l'équipe d'Argentine, il y avait des types qui avaient été emprisonnés. Donc ça anesthésie, à un moment donné, les désaccords politiques. Ou, à l'inverse, le sport peut être aussi un moment... très politique. Enfin, je vous dis ça parce qu'on va passer à un autre sujet, mais les rebelles du foot de Gilles Roff et de mon ami Gilles Pérez, qui est un truc qui avait été fait pour Canada, qui nous fait des personnages, je pense à Drogba, je pense à Cantona ou d'autres, qui, de quelle manière il y a des footballeurs qui, dans leur pays, ont joué des rôles extrêmement politiques. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Algérie, un des vrais moments... avant l'indépendance même de l'Algérie, fait qu'il y a des grands joueurs
de foot. Une équipe du FLN, dont le capitaine était... Rachid Mekloufi, qui jouait à Saint-Etienne, voilà. Et qui a quitté Saint-Etienne pour aller jouer avec cette équipe du FLN.
Qui était un immense joueur, c'était Raymond Coppa.
Bien sûr.
Et Mekloufi va avoir le courage, alors qu'il aurait pu très bien continuer une carrière dans l'équipe nationale, etc., de participer à la naissance de cette équipe algérienne qui portait en elle cet état nouveau. Et moi, j'aime bien, une fois de plus, le geste sportif, le sport, c'est autre chose, mais j'aime bien quand la politique et le sport se mêlent, parce que ça peut être à la fois un outil idéologique de domination ou à la fois un vecteur d'un discours émancipateur extrêmement puissant, parce que voilà, c'est quelque chose qui donne à voir une grande idée, une grande émancipation, une grande lutte. Voilà, on se connaît tous les images à Mexico de ces sprinteurs qui lèvent le poing. L'image, elle est extraordinaire. Les types vont être sanctionnés après pendant des années, radiés quasiment de leur fédération. Mais à ce moment-là, ils dénoncent qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a encore des politiques de discrimination sur les hommes noirs.
Je vais être très cash avec vous.
Je vous en prie.
Il y a la Russie. OK, on y va. On commente les matchs. C'est une organisation quasi parfaite en Russie. Il y a la Crimée qui commence à être un petit peu être envahie par les Russes. Et après, on va au Qatar. Je suis d'accord avec vous. J'entends tout ce que vous dites. On a fait moins le cirque pour la Russie et on en a fait beaucoup pour le Qatar. Quel est votre commentaire ?
Que vous avez sans doute raison. Que vous avez sans doute raison et qu'il n'y a pas de raison d'être à géométrie variable sur ces sujets-là. Je l'avoue. Mais moi, j'ai trouvé que le Qatar, c'était une aberration écologique en plus, indiscutablement, dans un moment où l'urgence climatique, elle est encore là. Qu'il y avait toute une campagne menée par notamment l'Organisation internationale du travail. Alors, il y a des petites choses qui ont avancé. C'est la campagne carton rouge
bien sûr.
Que vous avez suivie, qui a fait que les droits un peu de certains travailleurs ont avancé. Mais tout de même, il y a des témoignages, le chiffre n'est même pas stabilisé, de gens qui notamment venaient du Bangladesh, qui ont participé à la Coupe du Monde au Qatar, qui étaient très spectaculaires. Alors une fois que je dis ça, il va de soi qu'en Russie aussi, il y a eu beaucoup de choses qui étaient des petites aberrations écologiques. Mais moi, je n'ai pas de discours à géométrie variable. Je suis monté au créneau sur la question du Qatar, j'étais plus silencieux sur la Russie, pas par complaisance vis-à-vis de la Russie, mais parce que sur le Qatar, j'accompagnais cette campagne qui était menée par Amnesty International, et ils sont venus me voir, on m'a expliqué des choses, et je trouvais qu'il y avait une fête qui était entachée. Voilà. Bon, là-dessus, on n'était pas d'accord, je sais que vous défendiez cette Coupe du Monde. Moi, je me suis pris tellement au jeu de tout ça que j'ai dit qu'il... L'équipe de France, ça me semblait inconcevable qu'elle puisse boycotter l'événement, mais j'avais demandé au moins que d'un point de vue diplomatique, la ministre des Sports ou que des représentants du gouvernement français n'y aillent pas. Je n'ai pas été entendu, évidemment. J'ai rencontré la ministre des Sports qui était à l'écoute, qui a dit d'ailleurs qu'il faudrait la prendre au mot maintenant qu'on fera le bilan de l'héritage de cette Coupe du Monde. Et moi, à titre personnel, je me suis mis un peu en difficulté. Au bout d'un moment, bravage, j'ai dit, bon, je ne regarderai pas le match. Donc je suis passé pour un imbécile parce que je n'ai pas regardé les matchs.
Il y a prescription, vous avez regardé la finale ?
Alors, voilà. Je vous jure que je dis la vérité, je n'ai pas regardé les matchs, mais la finale, au bout d'un moment, bref, à la maison, il y avait des gens qui sont en plus latino-américains pour beaucoup et qui étaient pour certains beaucoup du côté de l'Argentine, mais le match, il y avait tellement de tension, la première mi-temps, ça avait l'air assez casse-pied, je n'ai pas trop regardé, mais la deuxième mi-temps, il y avait une telle tension, c'était un tel spectacle que je me suis accroché à ça, et j'avoue que c'était un immense moment de... Enfin, ça va au-delà du sport, ce qui a eu lieu, quoi. Là, c'est la dramaturgie, là, c'est de l'opéra, quoi. Enfin, c'était effectivement un match extraordinaire. Mais bon, donc j'ai respecté, me semble-t-il, ma parole pour l'essentiel. Moi, je pense que c'est bien de regarder du foot en ayant les yeux ouverts et le cerveau aussi, quoi. On a le droit de...
Oui, mais là, vous allez...
De ne pas être dupe, voilà.
Vous n'êtes pas dupe. Ça, de toute façon, tout le monde sait que vous n'êtes pas dupe.
Non, mais nous tous, hein, je veux dire, ceux qui aiment le foot.
Mais bien sûr.
C'est pas parce qu'on regarde un match de foot au Qatar qu'on est un salaud. Moi, je n'avais pas envie de critiquer les gens. J'avais seulement envie de participer à la place qui est la mienne, en ayant un petit porte-voix, de dire attention, je ne suis pas d'accord pour que derrière ces événements sportifs magnifiques, il y ait des travailleurs qui sont morts sur les chantiers, qui sont traités par des gens qui sont vraiment un effort d'esclavage moderne qu'il fallait dénoncer, et je l'ai fait.
Vous avez quand même des bons souvenirs du football. Je veux dire,
ce que je voulais. Jacques, je veux vous en raconter. 8 juillet 1982. Vous savez très bien de quoi je vais parler, mais c'est l'année de mes 14 ans. Moi, chaque été, je partais en colo. Je fais un camp, on est sous la tente, dans les Alpes, dans la vallée de Névache. Il n'y a pas la télé. Le 8 juillet 1982, sous la tente, un de nos animateurs a un poste de radio. Et nous allons regarder la demi-finale France-Allemagne. Moi, c'est un des matchs qui m'a le plus marqué, que je n'ai pas vu parce que je l'ai écouté à la radio. Et il me semble que la voix dans cette tente où nous sommes tous réunis autour d'un feu de camp, on écoute la radio. Et est-ce que je dis une bêtise si c'était vous, Jacques, qui commentiez le match ?
Non, non.
Bon, voilà. Donc là, je suis assez ému parce que ce match, j'en ai gardé. On a compris ce dont je parle, c'est-à-dire cette demi-finale, Batiston blessé, etc. Et à la radio, c'est là la magie quand même de la radio, je l'ai vu. Mais l'impression que nous avons, on a tous vibré la trentaine de jeunes en camp de vacances ou en été. Écouter un match à la radio, je peux vous dire que
vous dire, je dois vous
par
dire,
Jacques Vendroux, c'était quand même, comme le voir.
Non, mais je dois vous dire que c'est un des grands moments merveilleux de ma carrière, cette demi-finale. C'est incroyable, j'en ai souvent reparlé avec Giresse, avec Platini, avec Marius Trésor. Ça fait partie, même si à la défaite, ça fait partie des, des bons souvenirs. Mais en fait...
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la magie de la radio et de l'événement sportif, c'est qu'on voit bien que c'est pas seulement des corps et le côté sportif, c'est que c'est une dramaturgie. C'est une histoire incroyable. Et quand elle est racontée, vous vibrez, quoi. Vous embrassez par moments, alors qu'on était au milieu des Alpes, dans la forêt, parce qu'il y a une voix, quelqu'un qui vous raconte et que vous projetez là-dessus des images. Bon, là, c'est la puissance du sport, quoi.
Voilà, on va y revenir dans vos souvenirs tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on parle maintenant de la troisième thématique de cette émission. Et je rappelle que vous êtes Alexis Corbière, député de la France Insoumise, passionné de sport. On l'entend depuis le début de cette émission. Je voudrais que vous me parliez de l'importance du sport chez les Français. C'est-à-dire que c'est important pour les Français. Je prends par exemple un exemple. Il y a eu quelques jours cette finale du rugby, du top 14 entre La Rochelle et le Stade Toulousain. Près de 10 millions de téléspectateurs. Il y a encore quelques jours, il y a eu France-Grèce de football au Stade de France, qui n'était pas un grand match, mais c'était un match important en tous les cas pour la qualification pour l'Euro de la saison prochaine en Russie. Pourquoi il y a autant de téléspectateurs? Et moi, j'ai une tendance à dire, j'espère on va être d'accord, que le sport est une porte de sortie pour les Français, soit en pratique, soit à la télévision, ou soit en écoutant la radio ou en lisant les journaux. C'est une porte de sortie, c'est un break. La France a des problèmes, on le sait. Vous défendez des travailleurs, vous avez raison, c'est votre ADN. Mais reconnaissez que le sport peut éventuellement faire oublier pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures les soucis du quotidien.
Ça me semble une évidence. Attendez, moi, je revendique le droit au bonheur. Et le bonheur du spectacle sportif, du spectacle partagé, c'est-à-dire qu'on l'a tous vécu avec des amis. Bah, évidemment, on se projette en général dans une équipe. C'est difficile. Enfin, moi, je connais personne qui regarde un match en n'ayant pas choisi une des deux équipes qu'il va soutenir. Ou du moins, bon, voilà.
Même nous, les journalistes, on choisit. Hein,
voilà.
Je n'ai aucun problème avec ça.
On se fâche, on pousse, on a l'impression d'y être. Donc, il y a la victoire, il y a la défaite, mais il y a ce moment collectif qui participe à ce bonheur.
Donc, c'est la porte de sortie.
Oui, bien sûr. On prend plaisir, mais ce plaisir peut être aussi parce qu'on a subi une défaite, mais on a oublié un instant toute une série de choses. On a participé à ce spectacle, mais pas seulement... comme on va voir un film, c'est-à-dire que le sport en général, les grands matchs, on s'implique dedans, on a le cœur qui bat, on attend, etc. Émotion qu'on retrouve difficilement, moi me semble-t-il, face à un film. C'est autre chose, c'est vivant, là, on est dans le spectacle vivant et dans quelque chose qui... Parce que l'issue, elle n'est pas écrite. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans le sport, c'est qu'à la différence d'un film où la fin, quasiment, le film, il est déjà fait, même si vous le découvrez... Là, on ne sait pas comment ça va terminer. Il y a une magie là-dedans, il y a une part de mystère. Alors, dans ce droit au bonheur auquel participe le sport, évidemment, les villes qui, le pays, la ville qui gagne, il y a une fierté aussi collective qui est donnée. Donc, ça amène à ce que dans des moments de souffrance, ce que je disais tout à l'heure, bon, ce que j'appelais la domination idéologique, ça peut être la personne humiliée, la personne qui souffre, dans cette victoire, peut retrouver une fierté, l'idée que quand même, on a gagné, que je ne suis pas le vaincu perpétuel, j'ai gagné. Donc évidemment, il y a un bonheur qui est très fort. C'est pour ça que des victoires nationales, en plus, sont des moments politiques à observer parce qu'il y a un rassemblement, j'allais dire national, je veux qu'on comprenne mieux que je ne parle pas du parti, mais il y a un côté patriotique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un amour du pays commun autour du fait que, surtout dans des sports ou des images d'une équipe de France à l'image du pays, où on se rassemble et où, bien sûr, on a 50 raisons de se diviser, on n'a pas les mêmes idées politiques, on n'a pas le même niveau de vie, etc. Mais il y a quand même l'idée que nous pouvons vivre en commun. On le démontre à travers l'événement sportif. Bon, ça, c'est intéressant. C'est une base pour dire une vie commune est possible. Bon, après, il faut essayer de le retranscrire dans la politique, pas une vie marquée uniquement par l'inégalité et l'injustice. Donc, le sport peut aider à ça. Moi, je crois que c'est pour ça que c'est quelque chose de très fort, quoi. Et rater ça, c'est dommage, quoi. Si on n'a jamais... 1998, c'était sur les Champs-Élysées avec des amis très chers, on regardait le match. L'ambiance, pourtant, moi, je viens de Provence, mais à Paris, l'ambiance qu'il y avait après la victoire, c'était un truc incroyable. Les gens s'embrassaient, quand même. C'est un truc à la fois ridicule. Et à la fois énorme.
Non, il n'est pas ridicule énorme, parce que n'importe vous l'avez qui... dit, il n'est pas ridicule parce que les gens ont été très très heureux dans cette finale de la Coupe du Monde de 98 que nous avons suivi, vous le savez. Et donc, il y a eu un moment de bonheur. Et c'est là où je veux en parler avec vous. Le sport donne du bonheur. C'est-à-dire, et je reviens à ma question de tout à l'heure, même si elle est récurrente, c'est une porte de sortie. La personne qui a des soucis terribles, que ce soit des soucis perso, que ce soit des soucis financiers, que ce soit des soucis au boulot, il regarde un match, il écoute un match, il va au stade. Pendant 3 heures, il a oublié tous ses problèmes. Vous le savez aussi bien que moi.
Non, mais je suis d'accord.
Vous êtes d'accord.
Mais je veux dire, comme Mais cette porte de sortie, comme la culture, une musique est
absolument,
une porte de sortie,
absolument.
Un concert, un grand concert. Et il y a quelques semaines, une amie m'a invité à aller voir Bruce Springsteen sur scène. Laissez-moi vous dire que les 40 000 personnes qui étaient là, elles ont pris un pied incroyable. Il y a une communion avec l'artiste, c'est assez puissant à voir tout ça. Donc le sport aussi peut retrouver ça, ce bonheur qui est offert, et ça c'est bien. Après, je veux pas assombrir la discussion. Attention à ce que ça ne s'accompagne pas de trucs d'imbéciles qu'on dénonce tous les deux et que beaucoup de gens dénoncent. C'est-à-dire que la violence qui est à côté, c'est-à-dire le fait qu'au bout d'un moment, on est tellement projeté dans le soutien à l'équipe qu'on en vient à castagner
les supporters.
C'est une incompréhension.
C'est incroyable ce que vous me dites, parce que c'était justement le sujet que je voulais évoquer avec vous. La violence dans le sport, que ce soit sur les terrains de football, que ce soit dans les tribunes, et que ce soit ce rôle, mais qui est d'une ambiguïté incroyable, des présidents de clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 ou de National, alors que ça n'existe pas dans le rugby et ça n'existe pas au handball, par exemple, l'importance qu'on donne aux supporters, qui sont des voyous et qui sont en train de dénaturer le football et qui sont en train de diaboliser le football. Vous avez raison.
Comme il y a de l'enjeu financier, il y a des gens, ça va au-delà c'est bien de mettre de la passion et tout, mais... c'est des fois, évidemment, c'est pas seulement un match de foot, c'est des choses qui vont... Mais on est d'accord que dans cette espèce de dignité que la victoire peut accorder, c'est-à-dire qu'on porte la même couleur, on va gagner, des gens ne supportent pas la défaite et ont l'impression de suivre la défaite comme une humiliation. C'est l'aspect sombre de ce qu'on disait tout à l'heure, la fierté de la victoire, mais aussi... Et donc les gens sont prêts quasiment, n'acceptent pas, se battent et vivent l'équipe adverse comme un adversaire au premier degré, alors que c'est uniquement quelqu'un, l'autre équipe, elle est là pour mettre, je dirais, une émulation entre deux groupes d'êtres humains.
Non, mais ce qui est grave dans ce que vous dites, c'est que le notaire, l'avocat, quelqu'un qui a une situation correcte et cultivée, rentre dans un stade avec ses amis supporters, il devient complètement fou. Il est complètement déstabilisé. Ça, c'est grave aussi.
Devenir complètement fou, c'est-à-dire...
Ah non, ils deviennent fous. Moi, je vous le dis, ils deviennent fous.
Mais se mettre des couleurs sur le visage et tout ça, mettre un chapeau ridicule, c'est une part de folie sympa. Ce que j'accepte pas, mais parce qu'après, il y a des clubs de supporters, il y a le côté hooligan, avec en plus, bien souvent, des idéologies derrière, etc. Bon, je développe pas là-dessus, mais il y a le côté, les mecs, ils aiment la castagne et ils viennent là, et ça devient un prétexte.
Ils viennent que pour la castagne.
Voilà, c'est le côté, ceux qui connaissent le film, c'est Fight Club, quoi. Les types, ils ont
bien
en fait,
sûr.
Quel que soit, ce serait n'importe quoi, le spectacle, c'est le prétexte à castagner. Bon, là, il faut que les clubs sportifs fassent bon ordre, parce que là aussi, on n'a pas trop abordé ça, mais le stade, qui est un endroit incroyable, doit être un lieu populaire. On doit pouvoir y aller avec les gosses, on doit pouvoir y aller tranquillement, et il est hors de question qu'on prenne des coups là-dedans.
Je veux l'évoquer avec vous.
Ouais, voilà.
Allez-y.
Si le sport n'est plus populaire, ça parle plus. Et là, violent. Alors, il y a le prix des places, qui est un sujet, le prix notamment prochainement au JO, le fait qu'on puisse y aller, ça coûte cher, un abonnement de foot. Et puis après, il y a le côté populaire, c'est-à-dire qu'il est hors de question quand on y va, qu'on craigne et que ça finisse mal. J'ai une pensée pour le gamin, là. Bon, tout le monde en a parlé, le petit jeune originaire de Marseille qui s'est fait agresser. Bon, là, vraiment.
Ajaccio.
Voilà, les sombres connards qui font ça. Mais je veux dire, les types, il y aura des sanctions, évidemment. Mais il faut que le sport reste ce lieu. Parce que, y compris pour un gamin, aller au stade avec son père ou avec sa mère, c'est des grands moments, quoi. Donc tout ça, c'est du bonheur. Et il faut que tout le monde est responsable du sport, aide à ce que les grands événements sportifs soient des moments de bonheur populaire. Et je leur dis, par notamment le fait que le prix d'accès soit possible pour toutes les familles de France, il faut mener des politiques publiques pour aider à ce que toutes les catégories sociales... Moi, je trouve parfois, je ne vais pas au Parc des Princes, mais beaucoup de gens qui vont au Parc des Princes, à Paris...
Pourquoi vous n'allez pas au Parc des Princes ?
J'ai pas trop le temps. Je trouve que c'est socialement... J'ai une fille qui habitait à Marseille, c'est plus populaire l'ambiance à Marseille. Et je trouve que le Parc des Princes, attention, parce que ça ne devienne pas le rendez-vous de ceux qui ont les moyens de se payer des places et des abonnements. Donc j'invite les clubs à avoir ça en tête, à veiller à ce que ça reste un spectacle populaire.
Du côté de Lens, par exemple. Allez,
Il me semble que notamment dans le Nord, ce qui fait la puissance des équipes, même si elles n'ont pas des résultats premiers, mais elles gardent des supporters.
Lens est qualifié pour la Ligue des Champions directement, il y a l'exception.
Oui. Mais c'est parce qu'elles ont ce goût du public populaire et qu'elles le maintiennent et que sans doute que les responsables de clubs se donnent les moyens. Donc ça, c'est bien. Moi, c'est ça, c'est le sport que j'aime.
Alors, voilà. Dans cette troisième thématique où on parle bien sûr de l'importance du sport, je veux dire, dans notre société, on a parlé de la violence dans les stades. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'on peut poser la question tous les ans, toutes les saisons, on n'arrive pas à résoudre le problème. Vous êtes un leader politique, vous connaissez mieux que quiconque, je veux dire, la population. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les interdire? Il faut les suspendre à vie? Il faut trouver une solution? Ça vient de qui? Ça vient de l'État? Ça vient des présidents de clubs? Ça vient de la fédération? Ça vient de la Ligue? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand vous dites, moi je ne vais plus au stade parce que je ne peux pas emmener mon fils et ma fille, vous avez 10 000 fois raison. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre fils et votre fille reviennent au stade avec vous?
Je ne parlais pas pour moi, je parlais des gens.
Non, mais je parle en règle générale.
Il me semble que là, je critiquais le PSG, mais il y avait une époque où il y avait des COP extrêmement violents, ils ont été matés, si je puis dire. Il y a eu des politiques publiques.
Ils ont été radiés.
Voilà. Donc, il y a des choses qui sont possibles quand il y a de la volonté aujourd'hui, parce que le stade est aussi un lieu de contrôle, il y a des caméras. Il ne faut pas me faire croire qu'il peut toujours avoir un incident, parce que par définition, un événement public, ça peut déraper. Mais quand en permanence, des groupes violents qui font des signes en plus politiques extrêmement visibles, avec des bras tendus, on aura compris ce que je veux dire. Bon, les laisser prospérer, là, il y a quelque chose qui n'est pas acceptable de la part des dirigeants de club. Donc déjà, PSG l'a fait partout. Tous ces regroupements de prétextes sportifs qui en vérité sont des petites milices qui se forment, il faut les dégager, les sanctionner en dehors. Il faut une politique énergique contre le hooliganisme. Je sais qu'en plus, il faut faire ça et la police aussi est là-dessus. Ça, c'est une chose. Après, il faut avoir aussi, parce que qu'on disait tout à l'heure que c'est de l'idéologie, un rapport idéologique au sport bienveillant et qui soit vecteur. Moi, j'ai rien contre. Je trouve que c'est bien que contre la xénophobie, contre la misogynie, etc., il faut y travailler. Là aussi, comme on va vite, que les médias aident à ce que le mouvement sportif féminin ait plus de visibilité. Moi, j'ai vu qu'il y a la Coupe du Monde féminine.
C'est réglé.
Oui, réglé. Mais c'est d'accord. Mais enfin,
après
bon,
un combat.
Voilà.
Un combat.
Il a fallu du temps.
Et France Télévisions.
Les salaires.
Enfin.
Les salaires dans le sport féminin ne sont pas du tout les mêmes. Bon, il faut donner de la visibilité à ça. Moi, quand j'étais gamin, le seul sport où les femmes avaient une visibilité, c'était le tennis. À part ça, il n'y avait pas une championne dont j'étais capable de dire le nom. Jeannie Longo, on en parlait, mais enfin, bon, aujourd'hui, ça commence un peu à changer, mais il faut que le sport ne soit pas seulement, comment dirais-je, pyramide avec la grande idole, mais qu'on continue à avoir un regard sur le sport de différentes pratiques, avec, et notamment le développement du sport féminin. Ce n'est pas un à côté de la question de la violence, ça ne doit pas être qu'un truc de mec. C'est pas qu'un truc viriliste pour venir se castagner entre les. C'est quelque chose qui nous concerne tous, il me semble, hein.
Non, vous avez raison. Vous avez raison. Je vous écoute religieusement. Vous avez raison.
Religieusement.
Sur plein de sujets. Sur plein de sujets.
Et après, moi, il y a toujours eu de la bagarre dans le sport, hein, ceci dit. Mais c'est intéressant de.
Ouais, enfin, il y a un niveau maintenant qui est inacceptable. Vous le savez aussi bien que moi. Je veux dire, il y a des débordements qui sont insupportables quand on aime le sport comme nous deux. Je veux dire, on aime le sport, on aime le foot, on aime le rugby. On aime les sports collectifs, on aime même les sports individuels, mais maintenant, il y a de la violence. Parce que là, on parle du PSG, on parle d'autres clubs, mais je vous signale que le petit derby qu'il y a au fin fond de la Mayenne, ou au fin fond du Calvados, ou au fin fond du Béarn, entre deux clubs qui se détestent, il y a de la violence autour de la main courante. Vous le savez aussi bien que moi. Ouais. Ça, faut faire attention. C'est dangereux.
Il y a aussi des gens, comme ils veulent que les gamins réussissent, ils projettent là-dedans plein de choses. Il y a des fois des.
Enfin, vous avez le père et la mère qui souhaitent que le fils devienne Mbappé ou Michel Platini ou Zidane.
Voilà.
Donc ils font n'importe quoi.
Voilà.
Et ils insultent l'arbitre.
Voilà. Donc là, il faut faire attention, mais parce qu'on voit bien que ça va au-delà du sport, l'idée de la réussite, etc. Donc il y a une démesure telle aujourd'hui dans le sport que les gens, sans doute pour certains, c'est regrettable, ils sont minoritaires. Enfin, je ne veux pas non plus, moi, de ce que
ils
je
vois. Ils sont minoritaires.
Je veux dire, honnêtement, je suis toujours admiratif parce qu'on vivait tous les dimanches, les braves gens qui sont là avec, pour accompagner les gamins.
Mais c'est le plus important,
c'est quand même la grande majorité,
mais
c'est eux qui font vivre le mouvement sportif.
Bien sûr.
Et après, il y a parfois des incidents, et en plus, on est à l'heure des réseaux sociaux, le moins d'incidents prend énormément d'importance, etc. Je ne sous-estime pas. D'abord et avant tout, c'est beau tout ce qui a lieu tous les dimanches dans cette pratique bénévole qui n'est pas violente. Mais bon, voilà, il y a de la passion et il y a des gens qui pètent les plombs et qui sont prêts, en voyant jouer des minimes, à se castagner avec un arbitre, ce qui est fou.
Quatrième thématique, Alexis Corbière, vos idoles. Parlez-moi de vos idoles. Parlez-moi des joueurs ou des joueuses ou des athlètes qui vous ont vraiment donné beaucoup d'émotions. Première question, vous aviez des posters de sportifs dans votre chambre à Béziers ?
Alors, bon, on a beaucoup parlé foot, mais en vérité, moi, je suis d'une ville de rugby. Béziers, 11 fois champion de France jusqu'à 1984, une ville entière.
Richard Astre,
Richard
capitaine.
Astre, Jack Cantoni, les frères Vaquerin, évidemment. Bon, une équipe.
La grande équipe de l'AS Béziers.
Avec Raoul Barrière, qui a été après, moi, j'étais au lycée Jean Moulin, un de nos profs. Il y avait des sports études au lycée qui étaient là, etc. Bon, une ville entière, une ville moyenne comme Béziers, qui trouvait à travers ces années rugby. un rayonnement national, quoi. On était tous fiers. C'était, bon, c'était, ça allait au-delà du sport, de toute manière, c'était autre chose. Et une ville qui s'enflammait lorsqu'il y avait les matchs sur les allées Paul Riquet, en bleu et rouge, c'était les couleurs de la ville. Bon, c'était extraordinaire. Donc le rugby, évidemment, on déclinait, on était capable de dire tous les noms des joueurs. Mais paradoxalement, je ne sais pas vous l'expliquer, moi j'ai pratiqué du judo.
Vous l'avez
voilà,
dit.
Énormément. C'était le sport. J'ai été ceinture noire de judo à 15 ans. Voilà. Je voulais être un grand sportif et j'aurais voulu être un grand judoka. J'ai rêvé d'être champion du monde de judo. Et celui dont j'avais un poster dans la chambre, c'était Thierry Rey. Alors, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent Thierry Rey.
Très bien.
Voilà, Thierry Rey qui a été champion olympique en 1979, champion du monde, champion olympique en 1980, champion du monde en 1979. Le type a 23-24 ans, il a tout gagné. Thierry Rey, qui était dans un sport peu médiatisé à l'époque. Aujourd'hui, Teddy Riner, David Douillet, on connaît, mais à l'époque, le judo était assez confidentiel. Mais Thierry était un des premiers.
Thierry Rey, l'une des premières stars du rugby.
Voilà, voilà, voilà. C'était une des premières stars. Moi, l'équipe de France de judo faisait des tournées dans toute la France et il y avait ce qu'on appelait des entraînements en commun. Et j'ai participé, quelle année, je ne sais plus, 83, je venais d'être ceinture noire. Et en entraînement, l'équipe de France était venue à Montpellier. Il y avait, et alors, j'ai combattu avec Thierry Rey. Et pour moi, c'était très impressionnant. Et évidemment, le type, il me prend 2-3 déplacements. Pour ceux qui connaissent le judo, il me met un pion énorme, énorme. C'est-à-dire, il me fait chuter, mais très fort. Je me relève, on repart, hop, 2-3 mouvements. Il m'en met un autre. Je suis à moitié groggy. Il me tape sur la joue. Il me dit, bon, va t'asseoir. Bon, alors, voilà, moi, j'étais tout fier. Je raconte ça parce que je l'ai rencontré depuis. Je le connais, Thierry, et je lui ai raconté ça. Bon, et ça l'avait fait rigoler parce que j'avais son poster.
Vous avez fait du judo pendant combien de temps?
Ah ben entre 7 et 20 ans quoi.
Ah quand même.
Oui oui non mais je pratiquais ça et j'étais vraiment et je voulais ça, je voulais faire sport études judo, ma mère avait pas voulu et puis j'aurais pas été sans doute un grand champion mais alors il y avait ça vous parle vous Bernard Tchoulouyan qui avait été champion du monde
bien
de judo,
sûr,
il est à Marseille,
sûr, bien
c'était
sûr.
Mon idole, la première fois que j'ai entendu parler de Maastricht,
grand judoka,
énorme technicien super et la première fois que j'ai entendu parler de la ville de Maastricht, c'était parce que en 1981, il est champion du monde de judo à Maastricht, il devient champion du monde de judo. J'avais son poster dans la chambre. Il y avait Angelo Parisi qui avait été lui aussi champion olympique. Jean-Luc Rouget qui avait été le premier français champion du monde de judo. Enfin, on les connaissait tous.
Moi, Jean-Paul Coche.
Jean-Paul Coche, évidemment, qui était un type très puissant. Jean-Paul Coche, il a été médaille bronze, lui, de médaille de bronze au championnat du monde de judo. Bon, voilà. Moi,
j'ai été battu à la surprise générale aux Jeux Olympiques de Montréal en 76.
Ouais, effectivement.
On se souvient comme si c'était hier.
Ouais.
Parce que j'y étais, et puis on a sympathisé, parce qu'il était supporter des Verts de Saint-Étienne de Jean-Michel Larquet.
D'accord.
Voilà, vous savez tout.
Ah, bah super, Jean-Paul Coche, voilà. Donc tout ça, c'était mes idoles. Et j'aurais voulu être champion du monde, champion olympique, que sais-je, de judo, ce que je n'ai pas été. J'étais champion de l'Hérault, du Languedoc, je faisais des compétitions, on passait notre temps là-dessus. Mais voilà.
On en a parlé tout à l'heure, vos souvenirs. Bon, vous avez parlé de 82, la demi-finale ouais. de la Coupe du monde de football. Il y a eu 84, le titre de champion d'Europe de l'équipe de Michel Platini et Michel Hidalgo.
Et je rappelle que pour le petit Biterrois que j'étais, jusqu'en 1984, 84, 83, j'ai plus toutes les années, ma ville devenait championne de France de rugby. Et pour nous, ça rythmait complètement. On vivait là-dessus, on ne parlait que de ça, etc.
Comment vous avez vécu 98, Coupe du Monde 98?
Alors, 90...
Vous étiez où?
Alors, le soir de la finale, je l'ai vu dans un café sur les Champs-Élysées avec un groupe d'amis. Et j'étais sur les Champs-Élysées. Et je me souviens, les amis avec lesquels j'étais, à s'embrasser. On était comme fous, mais ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'au bout d'un moment, on se baladait dans la ville et les gens, comme ça, vous offraient un coup à boire, s'embrasser. C'était complètement dingue. Il s'était passé, je me souviens de cette image, je crois, sur l'Arc de Triomphe, Zidane président, quoi. Je veux dire, il marchait sur l'eau. Non, c'est un grand moment. C'était très beau. Le match était extraordinaire. Même si assez rapidement, on a compris que l'équipe de France prenait l'ascendant. Mais il y avait quelque chose qui flottait dans l'air, qui allait au-delà de la victoire sportive. Un pays qui se projetait tellement dans cette équipe, même si c'est un peu cliché de dire ça, mais de toutes les couleurs, c'était grand, c'était beau, on y croyait. La réalité a montré que c'était plus compliqué. Mais on avait envie de croire à tout ça, qu'on était, nous, les Français, les champions du monde. Et cette équipe était extraordinaire. Et chaque personnalité... Zidane est un type... C'est marrant parce qu'à la fois, il a un charisme énorme, alors qu'il ne parle pas beaucoup, mais moi, je trouve que c'est un beau personnage. Lilian Thuram, qui était là, en fait, tous, on pourrait les citer. Il y avait une équipe comme ça, dans laquelle les Français se reconnaissaient bien. On était heureux. Et ça a flotté comme ça pendant plusieurs jours, quoi. Mais là, cette soirée, je ne sais pas quelle heure je me suis couché, circulant comme ça, de coups à boire en coups à boire, d'embrassades, de gens qui se mettaient à chanter, de gens qui voulaient... Bon, c'était un moment magique.
Magique aussi, est-ce qu'on peut parler des Jeux Olympiques de 2024 ? Je sais que c'est important pour la France, je sais qu'il faut faire attention à la sécurité, je sais qu'il y a beaucoup d'investissements de la part de l'État. Quel est votre avis ? Je veux dire, en tant que politique, vous êtes un leader, vous êtes écouté. Les Jeux Olympiques, je ne dis pas que... C'est indispensable à la vie de la France en 2024, d'avoir les Jeux Olympiques pour les 100 ans. Je veux avoir votre avis.
Je ne veux pas être le pisse-vinaigre de service. Il y a beaucoup d'investissements. Enfin, moi, je suis un élu du 93. On a promis à mon département.
Justement, je voudrais qu'on en parle, ça aussi.
On a promis à mon département, qui a un héritage des Jeux Olympiques, et toute une série d'acteurs.
C'est le plus important pour vous.
Je veux dire, ce serait pas. Déjà, j'ai plus tout à fait le chiffre, mais vous savez que la pratique sportive dans le 93, il y a un nombre d'adhérents des clubs sportifs qui est assez basse. On a un gamin sur deux qui ne sait pas nager dans le département. On est sous-équipé au niveau du département. Je crois que c'est... je vais retrouver les chiffres, mais un équipement sportif, je ne sais plus pour combien d'habitants. Nous, on est vraiment 5 fois en dessous de la moyenne nationale. Donc, alors qu'on a après, on a l'impression que la Seine-Saint-Denis offre dans toutes nos équipes des gamins qui Mbappé est originaire de Bondy, etc. On pourrait les citer. Mais pour autant, en termes de politique publique, on est énormément en retard. Je pense notamment un gamin sur deux, plus d'un gamin sur deux qui ne sait pas nager en Seine-Saint-Denis.
C'est vrai.
Un problème.
Vous avez raison.
Donc, il y a eu la promesse quand les Jeux Olympiques, pour beaucoup d'équipements, avaient lieu dans le département, qu'il y aura un héritage. Et aujourd'hui, les investissements, je crois que c'est 1 milliard qui a été accordé, va servir surtout à construire des lieux pour accueillir le village olympique. Bon, ça, c'est pas de l'équipement sportif. Et pour autant, je pense notamment à ceux qui, de la Fédération sportive et gymnique du travail, la FSGT, a considéré qu'il faudrait des investissements de 6 milliards d'euros pour qu'on puisse avoir quelque chose de pérenne qui fait que le département rattrape un peu la moyenne nationale. Et on en est loin. Donc, il y a une certaine déception. Après, il y a des chantiers importants, on l'a évoqué, je ne vais pas y revenir, mais sur lesquels beaucoup de grosses entreprises, des grands groupes, franchement, qui font des bénéfices records, utilisent quand même beaucoup de gens avec des situations de sans-papiers, de précarité, qui, moi, me déplaît fortement. Et j'aimerais que le sujet public, quand même, qu'on est la France, merde, et le droit du travail, ça existe, il faut de l'inspection du travail. Pour l'instant, moi, je crois qu'une personne seulement est décédée, mais enfin, il se passe des choses sur les chantiers qu'il faudrait surveiller. Donc, je ne voudrais pas, pour résumer les choses, bien sûr, il va y avoir sans doute un moment de bonheur, mais qu'on le fasse, moi, j'aime pas, on n'est pas des gens béats. On peut aimer le sport, mais on est. Moi, j'éteins.
On peut aimer les Jeux Olympiques et être
objectif. Voilà, mais je n'éteins pas mon cerveau d'homme révolté, d'homme qui veut la justice et l'égalité, qui est du côté des travailleurs, j'ai envie de dire, de ceux qui produisent, uniquement pour obtenir un spectacle sportif. Je sais qu'en coulisses, beaucoup de gens, malgré tout, ont donné beaucoup, ont été mal payés, parce qu'il y a, pour permettre un événement qui, quand même, va être aussi un vecteur de circulation d'argent assez important.
Pour ou contre les Jeux Olympiques en France, en 2024 ?
Beaucoup de mes amis sont très critiques vis-à-vis de ces Jeux et auraient considéré qu'il ne fallait pas les accueillir. Maintenant, ils sont là. Faut faire avec, et c'est pour ça que je souhaite des Jeux sociaux, des Jeux écologiques, et que les promesses faites par le COJOP soient tenues, en particulier pour mon département. Voilà, beaucoup de jeunes, là, je ne sais plus comment, il y a 45 000 bénévoles, là, ou quasi-bénévoles, pourquoi on ne les paye pas ? Pourquoi on ne les paye pas ? Il ne faut pas raconter des bêtises. Les gamins, ils vont être occupés dans des boulots. Enfin, je veux dire, il y a du travail masqué, quand même, là-dedans. Ça ne va pas, quoi. Et après, bon, le coût supplémentaire, le prix des places, c'est exagéré, quoi. Moi, je ne voudrais pas que les gamins de Seine-Saint-Denis regardent uniquement à la télé un spectacle qui se déroule à quelques kilomètres de chez eux. Parce qu'on s'éloignerait trop de l'esprit olympique. Voilà. Donc, la critique que je porte, il est sans doute trop tard pour... aller plus loin dans la critique, les JO vont avoir lieu, ben vous savez aussi que beaucoup d'organisations syndicales et certains de mes amis voulant un peu ne pas solder le mouvement sur les retraites voulaient peut-être profiter de ces Jeux Olympiques pour faire entendre une revendication maintenue.
C'est-à-dire ?
Ben on verra, non, mais c'est eux qui décident, moi je ne suis pas dirigeant de syndicaux, mais beaucoup de gens ont dit qu'il y aura peut-être des mouvements sociaux pour faire entendre une revendication. Non, mais ce serait trop facile que le gouvernement qui a imposé 2 ans de plus aux travailleurs vienne un peu parader à l'occasion de ces JO, parce que derrière le sport, Il y a des travailleurs, il y a des gens qui construisent les stades, il y a des gens qui vont les nettoyer, il y a des gens qui ouvrent les stades. Et ces gens-là ne sont pas des gens invisibles du sport. C'est eux qui le permettent. Pour qu'il y ait l'artiste sportif qui puisse être dans un écrin magnifique, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui aient travaillé. Et ils doivent avoir leur part là-dedans. Et moi, je rêve d'ailleurs que les sportifs, les grands sportifs, qui ne doivent plus rien à personne, se fassent entendre là-dessus. Disent, je ne suis pas dupe du fait que dans le stade, ben, y a des gens qui ont été mal payés pour l'obtenir. Je trouve par moments que nos amis sportifs en France, il y a une tradition un peu perdue. Dans l'Amérique latine, parfois, c'était plus présent. Je pense notamment, j'ai eu une image, je crois, d'une équipe de foot d'Argentine qui s'était opposée à la privatisation d'une compagnie aérienne et avait porté sur les maillots une protestation à ça. En France, ça ne se fait pas. Bon, ça ne se fait pas, ou du moins, on dit qu'il ne faut pas...
On n'ose pas.
Mélanger. Et puis, bon, après, ça se discute. Peut-être que ceux qui m'écoutent vont dire qu'il ne faut pas mélanger la politique et le sport. Mais quand même, quand on est un immense sportif aimé de tous les gamins qui mettent votre photo sur les murs, etc., vous pouvez envoyer un message... un peu social, qui va au-delà de grandes banalités des fois qu'on leur fait dire. Du moins, c'est le message que je lance. Moi, j'ai aimé Dominique Rocheteau. Tout ça, ça semble loin. Vous voyez, je vais m'éloigner du Qatar pour ne pas repolémiquer. Mais quand il avait dit, finalement, il est allé, mais enfin, il avait protesté contre la Coupe du Monde en Argentine. Il y avait eu un coup d'État hein, en 76.
Je m'en souviens très bien.
Et 30 000 militants assassinés par une dictature. Et il y en avait quelques-uns, dont Dominique Rocheteau, qui était un immense joueur, mais qui avait dit, j'irai pas. Finalement, il y est allé. Voilà, moi, les sportifs, ils ont une mission maintenant qui va au-delà du sport.
Vous parlez de mon ami Dominique Rocheteau, que je connais très bien, que je côtoie régulièrement.
Vous
avec
le saluerez de ma part, mais
Cup
il était proche, mais je ne veux pas parler en son nom, mais il était assez proche d'extrême gauche française. Il avait des convictions.
Mais bien sûr,
J'aime bien ces joueurs qui avaient des convictions. Et souvent, d'ailleurs, même ce qu'incarnait, je ne connais pas personnellement Michel Platini, mais il incarnait aussi, son père avait été ouvrier, etc. Ils n'oubliaient pas. Alors qu'en plus, je pense que nos joueurs de foot aussi sont ici de milieux sociaux. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, ils n'oubliaient pas le milieu dont ils venaient.
Je vais vous faire un aveu. Dominique Rocheteau, j'ai souhaité l'interviewer pendant la Coupe du Monde au Qatar. Ah. Il a refusé.
Ah, c'est dommage.
Il a refusé. Non, mais il a refusé. Il a refusé de parler du sportif.
D'accord.
Il a refusé de parler. Il voulait manifester à sa manière le fait que la Coupe du Monde ait lieu au Qatar, donc en refusant toute interview.
Ah, bah, vous le
faites. Je vous le dis.
Bah, c'est bien, vous voyez ?
C'est un ami.
Il est mieux que vous. Il est plus clair. Vous avez des... Non, mais c'est chouette de dire ça. Parce que je pense que...
Mais c'est la vérité.
Non, mais quand ils ont une aisance matérielle, etc., il faut qu'ils parlent librement.
Puisque vous m'allumez, entre guillemets, sur mes positions en ce qui concerne le Qatar. Le Qatar, j'y étais parce que j'étais content de commenter une Coupe du Monde de football au Qatar. Soit, il fallait prendre la décision il y a 7 ans, il y a 8 ans. Il ne fallait pas prendre la décision an avant. Voilà, c'est tout. Voilà ce que j'ai dit, moi.
Oui,
et,
oui.
Et je l'ai toujours dit. Je dis j'y vais parce que j'aurais dû prendre la décision il y a 6 ou 7 ans.
Oui,
et que je ne l'ai pas prise. Et que je n'ai pas assumé. Et que je n'ai pas été courageux.
Il y a ça. Et puis pour plaider dans votre sens, il ne faut pas que uniquement cette protestation soit uniquement sur le Qatar. Je ne suis pas dupe. C'est-à-dire que vous avez raison, vous aussi, de m'allumer à votre façon tout à l'heure, à me dire ah ouais, mais quand c'est en Russie ou ailleurs. Je veux dire, moi, ce que je veux surtout.
Et aux États-Unis, il y a la peine
voilà,
de mort.
Et là, oui, puis la prochaine Coupe du Monde qui va avoir lieu aux États-Unis, d'après ce que j'ai lu, va être sur le plan une aberration écologique.
Non,
elle n'a pas lieu qu'aux États-Unis,
blague,
toute l'Amérique
blague,
du Nord.
Blague,
les types vont passer leur temps dans l'avion.
La Coupe
donc,
du Monde qui a lieu dans quelques années, c'est une blague.
Voilà.
C'est une sombre blague. Voilà, je vous le dis.
Donc il y a un problème. Et voilà, donc moi. Je peux comprendre qu'on dit donc Corbière, tu travailles que sur le Qatar, c'est peut-être vrai, mais là, comme en plus je vous répète, la campagne Amnesty, je les ai soutenus. Mais il faut avoir ce regard. Il y a une urgence climatique qui est là. Il ne faut pas que les événements sportifs effacent complètement ça et soient des aberrations écologiques et sociales. Voilà. Sinon, il me semble que, y compris, on n'est pas fidèle à ce que devrait être l'esprit du sport, qui est ce grand esprit qu'on a dit tout à l'heure, de moment de bonheur partagé. Et ce moment de bonheur ne doit pas être un moment d'amnésie. Sinon, on n'a rien compris, me semble-t-il.
Merci Alexis Corbière.
Merci à vous.
Merci en tous les cas de cet entretien qui est très intéressant. On n'est pas d'accord sur tout, mais en tous les cas, j'ai été très heureux de vous recevoir dans cette émission et vous êtes sur Europe 1. Et on se retrouve samedi prochain. Merci Alexis Corbière.
Merci beaucoup Jacques.